Revenons à la politique et à ce qu'a dit le langage de vérité employé par le Premier ministre François Bayrou, c'est lors du Face à Duhamel. Avec ce soir Lucie Castet, qui fut un temps candidate Nouveau Front Populaire au poste de Premier ministre. Bonsoir Madame Castet.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Je disais langage de vérité, c'est sa part de vérité qu'il a annoncé ce matin à François Bayrou, le Premier ministre, dans une France qui ne produit pas assez, qui ne travaille pas assez. Et c'est dans cette France qu'il va falloir trouver 40 milliards d'euros d'économies supplémentaires. On écoute le chef du gouvernement.
Nous manquons de ressources parce que nous ne produisons pas assez pour les créer. Si notre production par habitant était dans la même gamme que celle de nos voisins européens, nous n'aurions pas de déficit budgétaire et nos concitoyens qui gagnent quelques 2000 euros par mois approcheraient les 2500 euros et cela changerait notre vie et la leur. Le taux d'emploi des jeunes Français est beaucoup plus faible et le taux d'emploi des seniors est aussi plus faible que chez nos voisins européens. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez.
D'accord, mais maintenant, où trouver l'argent alors pour faire ces 40 milliards d'euros d'économie, Alain Duhamel?
Bah écoutez, ce matin, François Bayrou, au fond, sonnait le tocsin pour qu'on n'entende pas le glas. Alors évidemment, il y avait une part de dramatisation, il y avait aussi une part de vérité. C'est vrai qu'on est dans une situation « on », le monde entier, mais en l'occurrence nous, dans une situation compliquée. Mais une fois qu'il a dit ça, la question que tout le monde se pose, c'est d'ailleurs la question que lui ont posé immédiatement les journalistes qui étaient là, c'est ben, comment on fait pour les 40 milliards? Bon. Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a une solution idéale qui est ben, la croissance, l'emploi, donc des rentrées supplémentaires pour l'État, etc. Bon, ça ne correspond pas du tout à la conjoncture actuelle. Il y a une deuxième qui est classique, dans laquelle la France est absolument orfèvre, qui est la fiscalité. On est les meilleurs du monde. Bon, mais il a dit, on ne va pas toucher aux impôts. Alors, qu'est-ce qui reste? Il y a plusieurs formules théoriques. D'abord, on peut penser que le gouvernement trichera, c'est-à-dire qu'il dira on ne touche pas aux impôts, mais par exemple, on supprime des niches fiscales ou on renonce à des exonérations. C'est classique, c'est possible, c'est légal, très bien. Ensuite, on peut dire, on peut, comme on est dans une situation vraiment exceptionnelle, vendre des participations de l'État dans des domaines où on n'a pas de il n'a pas de légitimité particulière. Je sais pas, sur les jeux, par exemple, ou des choses comme ça. On dira à ce moment-là, ah ben oui, mais on perdra des revenus pour l'État. Bon, et puis, si tout ça ne marche pas, ce qui est assez probable, à ce moment-là, on en revient au rabot possible, au rabot au pluriel. Alors là, il y en a dans tous les domaines possibles et imaginables. C'est vrai pour ce qui est de la santé, alors on dira on peut toucher au déremboursement, par exemple. C'est vrai dans le domaine des collectivités locales, en leur disant « mais pourquoi est-ce que vous avez embauché tellement alors que l'État, au contraire, a été beaucoup plus sérieux ?» On peut imaginer de ralentir le rythme des embauches dans ce domaine-là. C'est vrai de l'hôpital, où on n'osera pas toucher quand même au fonctionnement de l'hôpital, mais on pourra dire les déremboursements, et puis trouver des astuces de ce genre, moindre remboursement des médicaments, peut-être participation pour les plus aisés, ce qui serait d'ailleurs pas absurde, soi-disant, et puis il y aura les retraites. Et à mon avis, là, ça va être le gros objectif cette fois-ci. Et sur les retraites, on peut jouer là aussi de la désindexation, mais on peut jouer de supprimer les 10% de frais professionnels, dont il faut bien dire qu'ils ne sont pas absolument évidents pour des retraités. Mais on sent bien que c'est dans cette direction-là qu'il y aura un effort.
Moi, ce sur quoi je souhaite revenir quand même, c'est, je partage une partie du diagnostic, mais une partie seulement. Le premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est quand même qu'il faut dire que la situation qu'on a aujourd'hui, le déficit et la dette publique sont liés en grande partie à la politique économique qui a été menée depuis 2018. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes
qui
dit.
Oui, mais depuis 30 ans. Hein.
C'est la Cour des comptes qui dit que oui, mais oui. On a perdu depuis 2018 à peu près 60 milliards d'euros de recettes fiscales parce que on a coupé les impôts. C'est majeur. Et une autre partie de la difficulté tient à la gestion de la crise. Donc ça, on peut plutôt saluer le fait qu'on a atténué l'impact économique de la crise Covid, même si il y a eu un peu d'arrosage de sable, notamment par manque de calibrage des mesures. Ce que vous balayez d'un revers de main, c'est le fait que on recourt à l'outil fiscal, au levier fiscal. Le Premier ministre,
j'ai pas balayé, sauf... moi, c'est lui qui a balayé.
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut revenir. J'entends, mais je pense qu'il faut quand même revenir sur cette possibilité. Je pense que c'est absolument indispensable. On a un système fiscal qui est inefficace. On a un système fiscal. Il y a une note de Bercy qui est sortie là. En 2024, tout le monde a payé plus d'impôts sur le revenu, sauf les plus riches. On a toute une série de dysfonctionnements du système fiscal qui n'est pas assez redistributif et dans, où on a la part de la distribution des ménages les plus riches et des entreprises les plus riches qui payent moins que les entreprises petites ou les ménages de classe moyenne, par exemple. Ça n'est pas satisfaisant. On pourrait lever beaucoup d'argent là-dessus. Et le Premier ministre a dit plus tôt, et le ministre de l'Économie aussi, on dit l'effort portera sur les dépenses. C'est-à-dire, on ne cherche pas à augmenter les recettes pour aller chercher ces 40 milliards, 40 à 50 milliards d'ailleurs, mais on fera porter cet effort sur les dépenses. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie très concrètement qu'on va réduire les services publics, qu'on va aller chercher dans nos services publics. Et ça, à mon sens, c'est un signal flagrant de manque de stratégie économique sur le long terme. On va réduire l'effet, ce qui va aller vers nos services publics. Et de ce fait, on va créer de l'incohérence. Par exemple, si vous désinvestissez dans l'éducation ou dans la santé, ça a des effets sur notre économie.
C'est déjà le premier budget de l'État, l'éducation nationale.
Oui, mais pour une très bonne raison. Quand on investit dans son éducation, on investit dans la productivité future de ses travailleurs. C'est tout à fait précis.
Donc votre raisonnement, c'est allons chercher l'argent là où il y en a, chez les plus riches, les plus hauts revenus. D'accord avec ça, Alain ?
Alors, je ne suis pas d'accord avec la solution, c'est forcément la fiscalité. En revanche, je suis persuadé...
C'est une stratégie économique qu'il faut déployer sur le moyen et le long terme.
J'ai bien compris ce que vous disiez, et j'ai bien compris dans quel esprit vous le disiez. Moi, je crois que de toute façon, François Bayrou et Éric Lombard, etc., assurent qu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité. Je suis sûr qu'ils seront obligés de le faire.
Je pense
qu'ils seront obligés de le faire parce que comme il y aura, j'en ai cité quelques-unes, mais j'aurais pu en citer d'autres, des mesures de désindexation, comme il y aura des mesures de contribution qui n'existent pas pour l'instant, qui toucheront beaucoup de gens, ils seront obligés symboliquement, au moins, mais obligé de toucher à, par exemple, les bénéfices exceptionnels de certaines grandes entreprises, ou, par exemple, à, effectivement, ceux qui, en utilisant l'évasion fiscale, ne paient pas une part loyale et équitable de leur patrimoine ou de leurs revenus. Je suis persuadé qu'il sera obligé de le faire.
Donc on augmentera les impôts, contrairement à ce qui est dit.
Je pense que ça sera en l'occurrence les impôts des plus privilégiés.
Oui, d'accord,
mais attendez.
Espérons-le.
Je vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je vous dis, je suis persuadé qu'ils seront obligés de le faire.
Mais ce sera contradictoire avec ce qui est dit.
Parce que plus on fera, et je crois que c'est une technique qui sera pas mal utilisée, de désindexation, ou le cas échéant de suppression de tel ou tel avantage, mais qui ne soit pas une augmentation d'impôts sur les plus nombreux des Français, ils seront obligés, par effet de symétrie et pour faire avaler la potion, de recourir à des prélèvements sur les plus fortunés.
Mais je partage votre avis sur le fait qu'à la fin, ils devront le faire parce qu'on ne trouve pas 40 ou 50 milliards d'euros d'une telle sorte. Amélie Montchalin, je crois, a dit qu'elle allait réduire certaines petites niches fiscales qui bénéficient à une poignée, mais on ne trouve pas 50 milliards avec quelques
niches fiscales. 400 niches fiscales en France, plus de
467, oui. Ouais. Mais si on fait ça... ça veut dire que encore une fois, le gouvernement renonce à déployer une stratégie de long terme qui est pensée et réfléchie et qui ne regarde pas là où les gisements sont. Par exemple, on a aujourd'hui à peu près 75 milliards d'euros d'exonération de cotisations patronales par an. 75 milliards d'euros. On a des crédits d'impôt, énormément de crédits d'impôt. On sait que la fiscalité en France est mitée. Il y a beaucoup de crédits d'impôt.
CICE.
Qui fait CICE, CIR, crédit impôt recherche, dont on a des organismes publics, c'est pas moi qui le dis, qui disent qu'on arrose le sable, c'est-à-dire qu'on crée des effets d'aubaine.
Certains sont utiles et d'autres ne le sont pas.
Certains sont utiles pour des fragments de la population touchée, c'est-à-dire que, par exemple, le crédit impôt recherche, il bénéficie de manière démesurée à des très grandes entreprises qui touchent la plupart du crédit recherche, impôt recherche, mais qui, en fait, auraient innové sans ce crédit, ou alors n'utilisent pas l'argent pour le crédit impôt recherche. C'est 7 milliards d'euros par an. Ça... Il faut le regarder. On a déjà des données qui nous montrent que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne pas à plein, et donc on pourrait réduire la voilure.
C'est pour ça que je vous parlais, que je disais il y a un instant, il y aura des exonérations qui seront supprimées.
Oui, mais il faut les penser, ces exonérations.
Attendez. Il y a l'aspect pratique. Est-ce que dans la situation où on est, on recourt à un certain nombre de mesures, dont la fin d'exonérations dont on pense qu'elles ne sont pas indispensables, voire qu'elles ne sont pas justifiées.
Oui.
Alors, ça, c'est quelque chose, on peut dire, c'est pratiquement un acquis.
Oui, c'est
en
un
tout
acquis.
Cas, c'est très vraisemblable.
Mais ça
il y a une deuxième chose, mais attendez, parce que ça correspond à j'attends. Votre raisonnement. Il y a une deuxième chose qui est de dire, oui, mais est-ce que c'est la bonne stratégie fiscale sur la longueur ou pas? Et là, vous avez pour le coup votre thèse, que je connais bien, parce que c'est, je sais très bien que vous êtes spécialiste de la question, et donc j'ai regardé ce que vous disiez là-dessus. Donc, votre stratégie fiscale, mais le gouvernement a tout à fait le droit, comme tout gouvernement, d'avoir une autre stratégie fiscale. Elle est peut-être mauvaise, ça on peut en discuter.
Je pense peut-être mauvaise, elle a été démontrée comme étant mauvaise. La situation des finances publiques nous le suggère aujourd'hui.
À vos yeux, parce que vous savez très bien, parce que ça je connais aussi un petit peu ça, vous savez très bien que depuis 2017, il y a eu une phase économique qui a d'abord été une phase d'amélioration avant qu'il y ait une phase de détérioration.
C'est vrai.
Au début, il y a eu des innovations, y compris dans le domaine fiscal, y compris au bénéfice des entreprises, qui ont provoqué des effets positifs. Et ça s'est déréglé.
La corrélation entre la diminution des impôts sur les entreprises et les rentrées de nouvelles recettes reste. La causalité reste à démontrer.
Non, mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que c'est qu'on peut les identifier. Je dis simplement que ça a existé.
Il y a eu une corrélation.
Et puis, dans une deuxième partie, au contraire, les choses se sont déréglées et la situation est devenue ce qu'elle est, c'est-à-dire réellement très mauvaise. Mais je voudrais dire simplement d'un mot. En France, on part du principe que on est les rois de la fiscalité, mais qu'on est ceci, cela. Et que ça n'est pas vraiment possible de changer les choses. Il y a quand même des pays qui sont des pays proches de nous par leur nature, qui y sont arrivés. Ça a été vrai de la Suède, ça a été vrai du Canada, et plus près de nous, de façon peut-être plus intéressante. Mais il faudrait savoir comment les Français accepteraient les mesures qui avaient été prises pour arriver à ce résultat. L'Espagne et surtout le Portugal, et ce sont des gouvernements de gauche qui l'ont fait et qui sont arrivés vraiment à améliorer les choses.
Mais fut un temps, vous pouviez potentiellement aller à Matignon. Admettons qu'aujourd'hui, vous puissiez prendre des mesures. Est-ce que vous enlèveriez les frais professionnels sur les retraites, par exemple? Est-ce que c'est une aberration?
Mais tout doit se regarder sur les retraites.
Non,
je pense que
ça fait 4 milliards. Frais professionnels, retraités, il y a une espèce de contradiction. Est-ce que vous diriez, allez, ça, 4 milliards,
Je pense que sur les retraités, on a tendance à considérer la population de retraités comme une population homogène. Or, il y a des gens qui peinent énormément à vivre de leur retraite parce qu'ils ont des très petites retraites, et d'autres qui sont très aisés. Et donc, il faut regarder au cas par cas en fonction de la population concernée.
Donc, on regarde et éventuellement, on touche aux retraités.
On regarde pour les retraités les plus aisés.
C'est une des pistes qui est
Je pense que ça ne doit pas être un tabou. Et un autre tabou qu'il me semble falloir lever, et on ne le dit jamais, et c'est pour ça que ce sont toujours les services publics qui trinquent, c'est qu'en réalité, on n'a pas regardé l'explosion des subventions et des dépenses en faveur des entreprises qui sont passées entre 1979 et aujourd'hui de 3 à 6% du PIB. C'est massif, c'est majeur, c'est presque 200 milliards d'euros par an. Il ne faut pas que ce soit un tabou. Et on peut rouvrir ça. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais aider les entreprises.
Non.
Je dis qu'il faut que ça soit utile. Or, aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et parce qu'on refuse de le regarder par dogmatisme, alors on se tourne systématiquement vers les services publics et on obère la préparation de notre avenir comme ça.
Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire... c'est un point de vue personnel, évidemment. Je ne crois pas qu'on puisse dire que les aides qui ont été données aux entreprises, qui effectivement ont augmenté beaucoup, sont des aides inefficaces. Il y en a...
Partiellement inefficaces. Oui. Il y en a qui sont tout à fait inefficaces.
Il y en a qui ont bien fonctionné et qui ont été utiles. Et il y en a d'autres qui n'ont pas donné les résultats qu'on attendait ou... qui, en fait, était mal calculé.
Oui, je ne dis pas que je suis contre des aides aux entreprises par nature. Je dis simplement qu'il faut les regarder et lorsqu'elles sont inefficaces, il faut avoir le courage de revenir dessus.
Et moi, je vous réponds que moi, je suis pour les aides aux entreprises, mais pas n'importe lesquelles et pas pour n'importe quoi.
On peut trouver un terrain d'entente
pour cibler que ce soit sur les prélèvements ou que ce soit sur le fléchage. La dernière question, avec une réponse express. On a démarré ce débat en écoutant le chef du gouvernement dire on est dans un pays qui ne travaille pas assez et qui ne produit pas assez.
Oui.
D'accord ou pas?
Absolument. Mais quand on dit on travaille pas assez, ça ne veut pas dire que chaque individu ne travaille pas assez. Bon. Non, mais attendez, il faut pas jouer sur les mots.
Non, mais par exemple, les 35 heures, c'est arrivé pour la masse. Alors est-ce qu'il faut en finir avec les 35 heures?
On n'est pas en train de dire chaque Français ne travaille pas assez. Ce qu'on dit, mais qui est une réalité statistique, c'est qu'il y a des catégories de Français qui ne le font pas exprès. C'est pas eux qui sont en mettre en cause, mais qui, en pourcentage, travaillent moins que dans d'autres pays. Et c'est vrai. Et c'est vrai. On sait très bien qui.
Bah, c'est
des moins de 20 ans, Alors, je vous dis pas que le système américain dans lequel on peut beaucoup travailler à 15 ans, etc. Je vous dis pas que je souhaite ça, mais c'est un fait que, en pourcentage, on travaille moins. Et surtout, il y a ce qui est aujourd'hui une différence significative entre la France et les autres pays européens. C'est-à-dire que, avant, ça a été les 55-65 ans. Maintenant, c'est plutôt les 60-65 oui. ans qui, effectivement, travaillent moins que dans d'autres pays.
Et pas parce qu'ils veulent pas travailler. Mais non, mais, et c'est toute la difficulté de la stratégie actuelle du gouvernement. Oui, tout à fait. Je vous rejoins là-dessus. Mais en réalité, le gouvernement s'est appuyé sur cette stratégie en disant, il faut qu'on travaille plus longtemps. Et ça s'accompagne de baisse de gains de productivité. Et donc, ça touche la croissance. Donc, la stratégie qui consiste à juste dire, il faut travailler plus et plus longtemps ne fonctionne pas.
Non, mais l'idée selon laquelle, si on travaille plus et qu'on produit plus, ça ira mieux, ça peut s'en fonctionner.
Merci, Lucie Castet.
Merci à vous.
Merci, Alain Duhamel.